Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 10 juillet 2020, le Conseil souverain du Soudan a approuvé une loi criminalisant l'excision, estimant qu'elle porte atteinte à la dignité de la femme. La mutilation des organes génitaux de la femme est considérée comme un crime, souligne un amendement au code pénal voté par le gouvernement fin avril. Les personnes rendues coupables d'excision sont désormais passibles de peine jusqu'à 3 ans de prison, indique le texte. La décision ainsi que la promulgation de la loi ont été saluées comme une victoire majeure par les militants des droits humains. L'Allemagne a adopté un plan le 8 juillet 2020 pour promouvoir l'égalité des genres, prévoyant une meilleure représentation des femmes en politique, dont la représentation au Bundestag est à son plus bas niveau depuis 20 ans. La CDU d'Angela Merkel a annoncé que 50% des postes de direction politique au niveau local leur seraient réservés d'ici 2025. En Allemagne, les femmes n'occupent que 15% des postes au sein des conseils d'administration. L'Allemagne de l'Ouest a toujours été en retard sur l'égalité des genres par rapport à l'Est communiste. La moitié des femmes à l'Ouest étaient employées à l'époque de la réunification contre 91% en Allemagne de l'Est. L'ancienne ministre de la Défense du Gabon, Rose Osuka Raponda, nommée première ministre par le président Ali Bongo le 16 juillet 2020, est la première femme à diriger le gouvernement gabonais. Madame Osuka Raponda a également été la première femme maire de Libreville en 2014, après avoir été ministre du Budget. Elle est économiste de formation avec une spécialisation en finances publiques. Et du côté de Kinshasa, l'avocate Bestine Kazadi est devenue la première femme présidente d'un grand club de football en République démocratique du Congo le 3 juillet 2020, notamment à la tête de l'AS Vita. Madame Kazadi succède au général Gabriel Amissi Kumba, qui est l'une des 14 personnalités congolaises sous sanction de l'Union européenne pour entrave au processus électoral entre 2016 et 2018.
Parole de femme.
Des Camerounaises innovent avec des start-up agroalimentaires. Deux d'entre elles sont présentées comme des success stories dans ce modèle de business. L'une propose des sauces pré-cuisinées à Yaoundé et l'autre transforme, conditionne et distribue des produits locaux. Ce secteur d'activité est en plein essor au Cameroun, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julntap.
Au moins 6 heures. C'est le temps de travail qu'il faut à Jacqueline Kenny, la promotrice de la start-up Les Saveurs de Mammom, pour obtenir un colis de tomates. C'est à son domicile, au quartier Essos, à Yaoundé, qu'elle confectionne cette sauce de tomates prête pour la cuisson. L'idée a vu le jour en 2014, mais c'est 3 ans plus tard qu'elle va faire naître une start-up.
En 2017, je me rends compte que ça peut être une réelle opportunité, compte tenu déjà que les produits sont déjà dans les champs, ne sont pas bien conservés. Je me suis dit que ça pourrait être une méthode de conservation facile qui va permettre de récupérer tout ce que les personnes détruisent dans les champs et en faire un business. Et je produis aujourd'hui au total 6 sauces, avec l'huile de tomate, une sauce barbecue, l'oignon en purée, l'ail en purée. Donc l'oignon c'est en 2 versions. Une pimentée et une non pimentée.
La promotrice de la start-up Les Saveurs de ma Mom expose dans les locaux du Centre international de l'artisanat de Yaoundé au centre-ville. La clientèle ici est beaucoup plus féminine. Armel est une jeune opératrice économique basée à Yaoundé.
J'ai acheté ces produits parce que ça facilite déjà la cuisson. Déjà, quand on est une femme travailleuse, il faut rentrer rapidement à la maison. Et avec ces produits-là, ça va très vite. C'est une très belle initiative déjà parce que ça contribue déjà au développement du pays et ça permet déjà aux jeunes Camerounais de ne plus être au chômage.
Mais ça, c'est le moulin.
Kenza Market est une autre start-up agroalimentaire. C'est au quartier Colbison à l'ouest de la capitale qu'est implantée sa principale unité de production. Manger sain, sans ajout, sans colorant ni additif alimentaire est le credo de Gaëlle Lorkenfak, la promotrice de ces start-up.
Ici se passe en fait la transformation, le conditionnement et l'étiquetage et le packaging en fait des produits qui ressortent pour être commercialisés. Nous avons par exemple ici le céleri, basilic, nous avons les feuilles de gingembre, nous avons l'ail que nous déshydratons, nous avons le maïs que nous déshydratons et beaucoup d'autres condiments camerounais dont les produits viennent frais, nous les lavons, nous les passons au déshydrateur, puis après, quand c'est sec, voilà une espèce de résultat.
Les success stories pour la start-up Kenza Market qui emploie 6 personnes. Dispose de 3 points de vente dans les villes de Yaoundé et Douala, mais également d'un réseau de distribution des produits dans les autres villes du Cameroun et à l'international. D'après l'association Startup Académie qui anime des conférences pour booster les jeunes Camerounais à rechercher un business model florissant et innovant, l'agroalimentaire est un module de formation les plus sollicités. Christelle Ngachoup est coordonnatrice de Startup Academy à Yaoundé.
Généralement, le domaine agroalimentaire est toujours un peu plus en avant parce que nous avons les produits, les denrées chez nous. Comment transformer qu'ils ne savent pas? On essaie d'inculquer un savoir-faire pratique aux participants. Et après les formations, nous les suivons maintenant dans le domaine de la commercialisation.
Selon l'Institut national de la statistique, l'agriculture vivrière a contribué à 0,2 points à la croissance du PIB du Cameroun. Une belle performance qui, d'après les économistes, devrait inciter de nombreux jeunes Camerounais à la création des start-up agroalimentaires. Emmanuel Jeloutap, Yaoundé, VOA Afrique.
Au Bénin, le harcèlement sexuel et les cas de viol des femmes journalistes sont dénoncés depuis quelques mois sur la toile. Angela Kpeidja, journaliste à la télévision nationale, a révélé au grand jour en mai dernier le malaise que vit le personnel féminin de cette chaîne publique, ouvrant ainsi la voie à d'autres dénonciations de femmes harcelées et obligées d'abandonner leur métier. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les révélations sont graves et mettent le doigt sur un phénomène tellement fréquent qu'il paraît aux yeux de certains normal. En dénonçant publiquement le harcèlement sexuel et les tentatives répétées de viol dont elle a été victime, Angela Kpeidja a ouvert un débat sur un sujet bien vieux permettant à d'autres de se révéler et de dénoncer leurs expériences douloureuses dans le domaine. C'est le cas de Priscille Kwabeme, journaliste à l'ORTB. Elle a fui le harcèlement pour d'autres chaînes de télévision et devant la fureur du mal, elle a dû se résigner, abandonnant ainsi sa passion.
Quand ton patron te fait la cour, tu refuses systématiquement, c'est des menaces, c'est des représailles. On t'empêche d'aller sur le terrain. On te confie ce qu'on appelle dans notre jargon des chiens écrasés. Et ils ne veulent pas savoir si vous voulez ou pas. Quand vous êtes femme journaliste, vous rentrez dans une rédaction, vous êtes comme un objet sexuel, vous êtes comme un jouet pour eux. Et tout le monde veut goûter.
Ce type de dénonciation est courant dans le monde des médias au Bénin. Et juste au lendemain de cette dénonciation, ces deux journalistes ont créé sur la toile un débat de fond montrant l'étendue du mal. Devant le tollé provoqué par les dénonciations tous azimuts, le chef de l'État a convoqué pour une réunion d'urgence les responsables de la télévision nationale ainsi que Angela Kpeidja pour connaître du dossier qui a éclaboussé la chaîne publique. Au retour de cette réunion, au cours de laquelle Patrice Talon a promis aller jusqu'au bout pour que les femmes puissent travailler dans un climat de paix et de sérénité. Le rédacteur en chef adjoint de la télévision nationale, Mesmé Adisso, perd son poste sans que les raisons ne soient réellement expliquées. Il porte plainte contre Angela Peïdia pour diffamation pour, dit-il, laver son honneur. Les journalistes saluent l'intervention du chef de l'État qui a quelque peu freiné les ardeurs de ceux qui voulaient en découdre avec la principale dénonciatrice du harcèlement dans les médias, particulièrement à l'ORTB.
On ne peut pas imaginer le nombre de situations que cette sortie du chef de l'État a pu régler, cette réaction.
Il est important que des têtes tombent pour que le métier soit assaini de ces brebis galeuses.
Priscille Kogbeme parle de son expérience et fait des révélations choquantes.
Moi, j'ai été harcelée, proprement et âprement, tellement que j'étais obligée d'abandonner, de rester à la maison. Je vous donne cet exemple d'un directeur de télévision bien connu ici au Bénin. Il m'a tellement harcelé que, du retour d'un reportage, quand il m'appelle, dans son bureau je vais, et derrière son ordinateur, je ne savais même pas ce qui m'attendait. Et qu'est-ce que je remarque? Le monsieur a déjà baissé son pantalon. Il était en train de se masturber, excusez du thème. Et il m'appelle, il me dit, viens me faire la clé.
Pour le moment, Angela Peïdia et toutes les femmes harcelées peuvent compter sur le soutien des organisations de la société civile. L'ancien président Nicéphore Soglo, qui à travers une sortie médiatique, a félicité l'intervention de Patrice Talon. Pour ce qui est de l'engagement de la corporation, on est encore bien loin du sursaut attendu. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Un gang criminel nigérian à la tête d'un réseau de proxénétisme particulièrement violent a été démantelé à Marseille. Le 23 juin 2020, 150 fonctionnaires de police sont intervenus pour interpeller 10 membres de ce groupe. Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion pour violence avec armes en réunion, viol aggravé et association de malfaiteurs. Les enquêtes ont révélé la barbarie de ce gang à l'égard des femmes arrivées en France après un périple traumatisant auquel ils infligeaient des viols collectifs et d'autres sévices. Ces mafias nigérianes sont largement implantées autour de Paris, Lyon et Marseille.
Si jeunesse pouvait.
Un jeune Burkinabé a décidé de mettre sur pied un respirateur artificiel, un dispositif médical qui doit permettre de faire face aux cas les plus graves de la pandémie de Covid-19, sachant que le pays dispose de très peu de ses appareils vitaux. L'hôpital universitaire de référence Tengandongo, qui traite des cas de coronavirus dans la périphérie sud de Ouagadougou, en a seulement 7. Un reportage de Lamine Traoré.
Dans son atelier au quartier Tanguin de Ouagadougou, nous rencontrons Issa Kouakou, dit Providence. Il soude des plaques métalliques. Ce Burkinabé de 40 ans est ingénieur, enseignant de technologie et directeur fondateur de BRTT, le bureau de recherche et de transfert de technologie, qui fait dans la recherche et le développement. Il est à l'origine de l'invention du respirateur made in Burkina.
Ce qui m'a motivé, c'est surtout le manque de respirateurs sur le marché international.
Issa Kouakou.
Parce qu'on a vu même aux États-Unis, dans d'autres pays, il manquait de respirateurs. Aux États-Unis, Donald Trump était obligé de réquisitionner des General Motors ou d'autres sociétés pour qu'ils fabriquent des respirateurs pour les États-Unis. Donc ici, si nous allons entendre qu'on vient nous fabriquer des respirateurs, bon, on va tous mourir. Donc c'est ça qui m'a motivé en fait à mettre au point des respirateurs ici au Burkina.
Et c'est avec fierté que l'inventeur présente son respirateur.
Ici, il s'agit d'un respirateur qui permet l'introduction de médicaments. Non seulement il aère le poumon, mais il y a possibilité aussi de mettre des médicaments qu'il mélange avec l'air et qu'il introduit dans les voies respiratoires et dans le poumon, ainsi de pouvoir faire des traitements.
Les respirateurs sont des appareils qui aident à ventiler les patients en apportant de l'oxygène en cas de défaillance de la mécanique respiratoire. Dans la lutte contre le coronavirus, Issa Kouakou estime que ces respirateurs sont de qualité et il y a la possibilité d'améliorer.
Je suis dans un groupe où il y a des médecins, il y a des cardiologues, il y a des réanimateurs, il y a tout un corps de personnes médicales qui sont à l'intérieur, qui vont certifier, qui vont travailler, qui vont tester ces respirateurs-là pour que ça soit dans les normes internationales.
C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment très, 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 très réfléchi en termes d'innovation et de créativité.
Silver Salga est inventeur et écrivain, promoteur de la société Salgatech, proche de notre Kouakou.
Nous sommes actuellement dans un protectionnisme mondial avec cette pandémie planétaire. Il y a tous les pays courent après les respirateurs. Ici, on a donc des initiatives endogènes qui peuvent nous permettre de fabriquer sur place. Il faut sauter dessus, il ne faut pas hésiter.
Issa Kouakou lance un appel aux autorités, non seulement burkinabais, mais aussi africaines, à faire confiance à l'expertise locale.
Dans nos pays, le vrai problème que nous avons est que nos autorités ne reconnaissent pas les capacités technologiques qui sont à l'intérieur de leur pays. Toujours, ils vont chercher ailleurs. Alors que des fois, ce qu'ils vont chercher ailleurs n'est pas mieux que ce qui est à côté d'eux.
Issa Kouakou est entre des coups de fil et des rencontres en quête de personnes de bonne volonté depuis qu'il a pu mettre sur pied ses respirateurs. Il pense que ses respirateurs sont accessibles. La fabrication d'un respirateur lui coûte 500 000 francs CFA. Et pourtant, sur le marché international, des respirateurs sont à au moins 5 millions de francs CFA. Le Burkina compte très peu de respirateurs. Il n'y en a que 7 à Tengango, l'un des plus grands centres de santé qui s'occupe actuellement des malades du Covid-19. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Des jeunes entrepreneurs camerounais s'impliquent dans la promotion du Made in Cameroun. En juin 2020, plus de 200 d'entre eux ont exposé à Yaoundé leur savoir-faire dans la transformation de produits locaux. Une foire d'exposition qui avait pour maître mot le patriotisme économique pour inviter à consommer camerounais. Alors que la crise du coronavirus a provoqué un frein aux importations du fait de la fermeture des frontières, on revient sur l'événement avec Emmanuel Juntap.
L'agroalimentaire, le cosmétique, l'artisanat, les innovations technologiques sont autant de secteurs où les jeunes camerounais se sont lancés et produisent localement. Certains connaissent des expériences avec succès, à l'instar de Thierry Yamen, promoteur du label Tanti, qui se décline en une vingtaine de produits alimentaires, notamment les céréales infantiles au soja transformées localement.
Chaque Camerounais devrait se rendre compte que chaque fois qu'il achète un produit importé, il est en train de financer du travail ailleurs.
Yoshua aussi est député et coordonnateur du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse, un organe de l'Assemblée nationale qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes.
Donc si vous voulez financer le travail de vos enfants, il faut que déjà dans votre façon de faire, dans votre attitude, dans votre mentalité, vous compreniez que chaque fois que vous choisissez un produit local par rapport à un produit importé, vous favorisez l'emploi d'un jeune.
Au Cameroun, une place de choix n'est toujours pas accordée à la valeur ajoutée locale, par exemple dans la commande publique. Les jeunes entrepreneurs par ailleurs ont évoqué d'autres obstacles à la promotion du Made in Cameroun. Deux exposants témoignent.
Souvent, on a des idées qu'on ne peut pas mettre sur pied, faute de moyens. Il y en a trois composantes. Il y a l'artisanat d'art, l'artisanat de services, l'artisanat de production, qui sont les viviers, les richesses au Cameroun. Et si l'État met les moyens sur cet artisanat-ci, l'économie du Cameroun va grandir.
Au prix de nombreux efforts, certains jeunes entrepreneurs parviennent cependant à valoriser le label Made in Cameroun. Ils produisent du savon, de l'huile, de table raffinée, des laits de toilette, entre autres. Victorine Nouleux s'est spécialisée dans la conservation alimentaire.
Nous faisons dans la conservation alimentaire, spécialisée dans le séchage des fruits, épices, légumes, infusions, poissons.
Le Cameroun importe d'importantes quantités de denrées, dont les substituts peuvent être produits localement. Une expérience dans laquelle s'est lancé Solange et Sengongono.
Nous avons donc pensé transformer le manioc. S'il manque du blé, est-ce que nous allons cesser de vivre?
Le gouvernement, pour sa part, souhaite que la production locale des jeunes s'arrime aux normes internationales. Luc Magloire-Mbaga à Tangana, ministre du Commerce.
Il faut pouvoir s'installer dans la durée pour ensuite s'imposer. Nous devrons pour cela les uns et les autres, pouvoir public et opérateur économique, travailler à satisfaire le triptyque disponibilité, accessibilité, attractivité.
À ce jour, une centaine de produits sont labellisés Made in Cameroun, notamment dans l'agroalimentaire, la santé et le cosmétique. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
Au Tchad, des organisations de défense des droits humains ont dénoncé les viols commis contre des personnes en détention après les révélations en juin 2020 de plusieurs cas dans des commissariats de police. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Dans la plupart des cultures tchadiennes, le viol est un sujet tabou, surtout quand c'est un membre de la famille qui en est victime. Mais les langues qui se délisent de plus en plus ces derniers jours mettent en cause les auxiliaires de justice. Le cas qui défraie la chronique, c'est celui d'un policier qui aurait été pris en flagrant délit de viol dans un commissariat de la ville de N'Djamena. Le procureur de la République, Youssouf Tom, a présenté le présumé auteur pour dissuader les autres agents de sécurité.
Le viol, c'est un crime. Tous ceux qui oseront poser ce genre d'acte, que ce soit de force de l'ordre ou pas, s'il enfreint la loi, il se croisera avec cette loi-là qui lui sera appliquée dans toute sa rigueur.
Après cette sévère mise en garde, d'autres cas de viol ont été signalés dans le lieu de détention. Deux cas à N'Djamena et un autre cas dans la province de Mont-de-Lam où le présumé violeur reconnaît les faits et demande un arrangement à l'amiable. Pour Mekombe Thérèse, présidente de l'association des femmes juristes du Tchad, c'est l'impunité qui encourage cette pratique dans les lieux carcéraux.
En force de défense, même quand ils sont dénoncés, la sanction ne suit pas. Soit ils sont protégés par le supérieur, soit même s'ils sont pris en flagrant délit. Chacun de nous doit analyser la situation. Pourquoi il y a tant de cas de viol, et surtout dans les milieux carcéraux? Et le pouvoir public s'est interpellé.
Pour les autorités judiciaires, la plupart des cas de viol n'ont pas été dénoncés au parquet.
Les auteurs de l'acte et les victimes ou bien leurs parents préfèrent des règlements amiables, même au niveau de la police judiciaire, à l'insu du parquet que nous sommes. Ce n'est pas une question d'impunité.
Youssouf Tom, procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena.
Les dossiers de viol conformément à nos textes pénaux, c'est des infractions qui sont criminelles. Et une infraction criminelle, on ne juge pas les gens sur les champs. Dès qu'on les arrête, on envoie les dossiers au cabinet d'instruction. Du fait même de la nature de l'infraction qui est criminelle, le code de procédure pénale nous oblige à ouvrir des informations judiciaires. Et les gens pensent qu'il y a l'impunité. Sinon, ils n'ont qu'à nous donner donc un exemple d'un notaire de viol qui a été arrêté, mais qui a été libéré comme ça par la justice, sans toutefois qu'il soit jugé.
Une réaction qui ne convainc pas tout le monde. Quelques citoyens se prononcent sur cette question.
J'ai une nièce, il a été violé par un gars. Le type, il est là. Il y a beaucoup de cas. En tout cas, les mots nous manquent.
Une de mes nièces qui a été également violée depuis 2013 jusqu'aujourd'hui. Le procès n'a pas eu lieu. Quand monsieur le procureur essaye de fouiller dans les archives.
Pour avoir siégé plusieurs fois dans les cabinets d'instruction où passent les dossiers de viol, le greffier au parquet général de N'Djamena, Doudjoum Senghar Tatolngar, estime qu'il y a de l'insécurité à la justice.
Si les décideurs font confiance, il faut que la justice aussi fasse normalement son travail. Et ça, je le dis parce qu'il y a le système de Montesquieu qui est déplacé dans l'organisation judiciaire, il y a le contre-pouvoir. Un juge d'instruction ne peut pas libérer sans donner avis. Il a la possibilité de libérer malgré l'avis contraire du procureur. Mais le procureur peut relever appel et le prisonnier ne sort pas, surtout en matière de viol.
Contacté par VOA Afrique, la direction générale de la police nationale exige une correspondance officielle avant de se prononcer sur ces allégations qui touchent l'institution. André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.